va commencer. On va commencer par une prière, qui est une prière de sœur Emmanuelle, sur laquelle je suis tombé par hasard, sur la prière, pas sur sœur Emmanuelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui voulus être un petit enfant enveloppé de l'ange, un adolescent soumis à Marie et Joseph, un Messie jamais conquérant, un ressuscité dans le secret. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui as dit « Bienheureux les doux, ils posséderont la terre ». Donne-moi de saisir chaque chose avec douceur, le téléphone et la valise, la plume et le balai, la fourchette et le plat, et surtout la main qui se tend vers moi. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui as dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Donne-moi d'accueillir toutes choses avec douceur, le bon et le mauvais, la joie et la peine, l'encouragement et la critique, l'instant tel qu'il est, et surtout l'autre tel qu'il se présente. Vierge pleine de grâce, Vierge du sourire, restaure en moi la divine douceur, apprends-moi à guérir ce que j'ai blessé, que ta tendresse fasse surgir sur mes lèvres les paroles d'amour qui rétablissent la paix. Voilà, j'ai choisi cette prière d'abord parce qu'elle s'adresse au Christ et qu'il faut tout ramener au Christ. C'est de lui que l'on attend tout. Et ensuite, pour sa dimension très concrète, que nous apprenions cette douceur dans les gestes les plus ordinaires de notre existence. Nous avons dit lors de l'entretien précédent que l'on ne pouvait pas isoler une béatitude des autres, qu'au contraire, elles s'éclairaient toutes les unes par les autres. Et nous en avons une illustration aujourd'hui très claire, puisque la béatitude des doux se trouve très proche de la béatitude sur les pauvres. On comprend bien que la pauvreté telle à laquelle nous invitait la béatitude que nous avons commentée la dernière fois, se vider de ce qui est superflu pour se remplir de l'essentiel, aide à l'acquisition d'une certaine paix intérieure de laquelle jaillira la douceur que nous essayerons de vivre dans notre vie. C'est d'ailleurs la première remarque que le père Carré fait dans son livre qu'il a consacré aux béatitudes, « Quand arrive le bonheur », quand il commence à commenter la béatitude sur les doux, voilà ce qu'il dit. Dans la Bible, la douceur apparaît étroitement liée à la pauvreté. Les doux et les pauvres forment la même catégorie sociale, celle du peuple de Dieu, du vrai peuple de Dieu. Si la béatitude que nous interrogeons ne figure que dans la version de saint Matthieu, c'est pour ce motif. Aux yeux de saint Luc, les doux se confondent avec les pauvres que le Seigneur interpelle nommément. Saint Matthieu, lui, est plus soucieux de pédagogie. Dans la situation matérielle qu'exalte chaque béatitude, il voit d'abord le symbole d'un comportement intérieur accessible à tous. Et j'ai trouvé un peu la même remarque dans le livre du père Éloi Leclerc. Il compare la pauvreté à la douceur et à l'humilité. Je passe. J'ai lu dans une note de la Bible que certains exégètes s'étaient demandé si la béatitude que nous commentons aujourd'hui, « Heureux les doux car ils posséderont la terre », n'était pas une glose, un ajout, un commentaire de la béatitude que nous avons commentée la dernière fois sur la pauvreté. Et il s'appuie sur des arguments que je vous passe, mais voilà. Donc ça aurait pu être au départ une seule béatitude qui ensuite dans la rédaction était séparée en deux. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas identiques et qu'elles sont un peu complémentaires. La béatitude de la pauvreté s'oppose à notre moi possessif, la béatitude de la douceur à notre moi dominateur, dit le père Thomas Philippe. le cofondateur de l'Arche. De même, on pourrait faire un rapprochement entre la béatitude d'aujourd'hui sur la douceur et une autre béatitude qu'on verra plus tard sur les artisans de paix. Il est évident que le doux est aussi par sa douceur un artisan de paix. Celui qui développe cette douceur et cette paix intérieure sera plus à même de la répandre extérieurement autour de lui. Mais la béatitude d'aujourd'hui, heureux les doux, relève de l'être, et celle qu'on verra plus tard sur les artisans de paix relève de l'agir. Donc elles ne sont pas identiques non plus. Cette douceur, on l'a déjà dit, elle est indissociable de l'humilité. Être humble garde doux. Parce que je suis humble, parce que je ne cherche pas à me mettre en avant, je suis préservé sans doute un peu de la tentation de vouloir écraser les autres, soit les rabaisser pour me situer au-dessus d'eux. Donc si je suis humble, je serai aussi doux. Et que l'humilité et que la douceur aillent ensemble, c'est Jésus qui le dit. Je suis doux et humble de cœur, nous allons en parler largement dans cet entretien. Et il ajoute, mettez-vous à mon école pour apprendre de moi cette douceur et cette humilité. Et paradoxalement, cette douceur évangélique, si elle est mal comprise, risque d'être une des raisons pour laquelle cette béatitude apparaît anachronique aujourd'hui. À une époque où ne semble compter que ceux qui occupent le devant de la scène, où on a l'impression que ne réussissent que ceux qui vont écarter les autres un peu par n'importe quel moyen, ne seront écoutés que ceux qui crieront le plus fort, ne seront respectés que les forts, donc on a l'impression que cette béatitude sur la douceur, elle est aujourd'hui anachronique. D'où l'intérêt d'en parler. Alors je vous propose quatre parties dans cet entretien. Une première partie où nous constatons que la douceur est une vertu incomprise. Une deuxième partie qui nous amène à contempler le Christ pour apprendre de lui ce qu'est la véritable douceur. Une troisième partie où il nous invite à nous mettre à son école car il est doux et humble de cœur. Que veut dire pour nous être doux et humble comme le Christ ? Et la quatrième partie, c'est aborder la deuxième partie de la béatitude. Que signifie posséder la terre ? Donc, grand 1, c'est une douceur incomprise. Je l'ai déjà dit, seul saint Matthieu rapporte cette béatitude sur la douceur. Comme je l'ai fait la dernière fois, je vous donne 2-3 traductions selon les Bibles, mais qui ne varient pas beaucoup d'une traduction à l'autre. La Bible de Jérusalem, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage », et la même Bible de Jérusalem, une édition suivante, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Et pareil pour la Tob, la traduction œcuménique, et pour la Botte, la Bible Hostie-Trinquée. Je ne vous donne pas la traduction de Chouraki, parce que je l'ai trouvée tellement bizarre que je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé de verset, donc j'ai été relire. J'ai quand même trouvé ça bizarre, mais enfin, je ne vous la donne pas parce que je n'exclus pas de m'être trompé en lisant. Premièrement, ce que n'est pas la douceur. Quand on emploie, nous, le mot douceur, on a bien une réalité qui nous vient spontanément à l'esprit, un sens qui nous vient à l'esprit, et il est sans doute un peu difficile de dégager ce sens d'un petit côté péjoratif. Douceur fait penser à doucereux, c'est-à-dire sucré, c'est-à-dire le contraire de ce qui est salé, et Jésus dit justement, si le sel se dénature, qu'adviendra-t-il ? Et c'est le sel qui donne du goût, c'est pas le sucre. Donc avec ce côté douceur, on a un petit côté doucereux dont on a du mal à se dégager d'une dimension péjorative. J'ai été voir le dictionnaire, Petit Robert, qui donne à l'adjectif doux la définition qui a un goût faible ou sucré. Le deuxième sens qu'il donne s'oppose à dur, fort et violent. Je suis en partie d'accord avec ça, mais je ne l'opposerai pas justement la douceur et la force. Pour le sens moral du mot douceur, celui qui nous intéresse, le dictionnaire dit « qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient, conciliant, affectueux ». Mais souvent, quand nous on dit de quelqu'un qu'il est doux, c'est sous-entendu un peu « il est gentil ». Donc voilà, il est gentil, il ne fera pas de mal, mais il n'ira pas très loin. Et il faut absolument, pour qu'on comprenne cette béatitude, qu'on dégage le sens de ce qui pourrait s'y raccrocher, qui n'est pas, à mon avis, juste. Il est un peu mou. Et il y a un sens, un mauvais sens irénique du mot « doux ». Ce seraient des gens qui apparaîtraient comme doux parce qu'en fait, ils auraient peur de faire une remarque ou d'avoir telle attitude, mais plus par peur que par force intérieure. Et donc, la peur les stérilise, les neutralise, ils ne disent rien, ils ne font rien. Mais ce n'est pas non plus la douceur de l'Évangile. Le Père Carré résume cette position. En quoi consiste cette douceur ? On la ramène souvent à une aimable bienveillance. Aucune aspérité dans le caractère, pas de réaction vive ni d'agressivité, une bonhomie naturelle ou affectée qui supporte tout. Telle est l'idée que l'on se fait de la douceur. À la douceur ne s'oppose pas, comme on pourrait le croire, la violence, mais autre chose, la raideur, et d'abord la raideur en face de Dieu. À côté de la raideur apparaît une autre attitude, voisine de celle-là, l'endurcissement. Deuxième sens que l'on récuse pour la douceur, c'est douceur opposée, que j'oppose moi à non-violence. Pourquoi je dis ça? Parce que chez certains commentateurs, j'ai vu l'identification entre douceur et non-violence. Je vous avais parlé la dernière fois d'un livre que Gilbert Cesbron, un écrivain qui a écrit beaucoup de choses, qui sont souvent très belles, a écrit, une méditation sur plusieurs années qu'il a faite, lui, sur les béatitudes. Et quand il parle de cette béatitude de la douceur, voilà comment il la traduit. « Bienheureux les non-violents, ils hériteront la terre. » Ça me gêne un peu pour deux raisons. D'abord parce qu'il est difficile de dégager ce terme de non-violent d'une connotation qu'il peut avoir avec tout ce qu'on peut avoir en tête dans les années 60-70 de ces manifestations de non-violents qui criaient plutôt rouge que mort. Mais pour moi, ça n'est pas la douceur de l'Évangile. Et je ne sais pas comment il faut comprendre, par exemple, cette phrase que Cesbron écrit dans son livre. « L'image de la jeune fille souriante croisant une fleur avec la baïonnette de l'homme dont le casque cache le regard, on la voit bien cette photo, est le premier document historique d'une humanité nouvelle. » Voilà, et je ne voudrais pas qu'on réduise la douceur à cette non-violence d'une humanité nouvelle qui apparaîtrait dans le fait qu'une fille tient une fleur en face d'un homme armé d'un fusil. La douceur est beaucoup plus que ça. Alors, même s'il s'en explique, et si je ne peux pas réduire le contenu de ce qu'il dit à ça, parce que dans sa tête, pour lui, non-violence, c'est, il assimile plutôt ça aux grandes figures pacifistes que sont Gandhi, Martin Luther King et Don Elder Camara, je n'irai pas jusqu'à dire comme lui, lorsque la société sera sortie de l'âge ingrat, quand le progrès aura retourné ses batteries, quand ce ne sera plus dans tous les domaines le temps du gâchis, alors l'humanité découvrira la non-violence. Ce sera une mutation, une ère nouvelle, ce sera la troisième étape, deux points, le Christ enfin ressuscité. Je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Voilà. Et je pense que la douceur et ce que nous apporte le Christ est beaucoup plus que simplement cette non-violence passive face à une attitude hostile en face de nous. Donc je préfère là encore le Père Carré, qui s'était demandé dans sa réflexion si effectivement on ne pouvait pas assimiler la douceur à la non-violence. À première vue, la solution est séduisante. Comme l'écrit un moine d'Orient, si Jésus à Gethsémanie avait demandé le secours de 12 légions d'anges, il n'y aurait eu ni Pâques ni Pentecôte. Et le Père Carré poursuit sa réflexion. Cependant, n'oublions pas que le Christ, frappé par l'un des gardes de Caïphe, ne lui a pas tendu l'autre joue, que s'étant fait un fouet avec des cordes, épisode raconté par les quatre évangélistes, il chassa les vendeurs du temple parce qu'ils dénaturaient le visage de son père, et que les scribes, les pharisiens, les villes des bords du lac ont entendu ses invectives et ses malédictions. La non-violence qui apparaît en tel cas particulier profondément évangélique et qui détient des possibilités immenses que nos églises n'ont pas encore découvertes, ne saurait être un système et encore moins un absolu. L'absolu est dans l'exigence de la justice et de l'amour, il n'est que là. L'amour peut opter pour la patience en faisant de cette patience la manifestation suprême de la véritable force. Il peut aussi céder à l'impatience quand il lui est impossible d'agir autrement dans un monde mauvais. Deuxièmement, dans ce grand 1, voilà, c'est pas ce que la, premièrement, ce que la douceur n'est pas. Deuxièmement, et là on va accentuer le discours. Dans la première partie, je disais des sens qui peuvent, de mots douceur qui peuvent atténuer la richesse du contenu. Là, ce sont des gens qui prennent bien la douceur dans son véritable sens et qui voient justement l'expression d'une faiblesse indigne de l'homme. Par exemple, la douceur viendrait contre la justice. C'est la thèse révolutionnaire. Peut-être vous vous souvenez de René Andrieux, qui fut le rédacteur en chef de la revue L'Humanité, la revue communiste L'Humanité. On lui a posé la question, pour vous, qui est Jésus-Christ ? Donc il répond avec beaucoup de respect, en regrettant que la douceur, si on réduit Jésus à la douceur, on stérilise le ferment révolutionnaire de la société. Et voilà ce qu'il répond. Pour certains, le Christ apparaît trop souvent comme l'exemple de l'humilité et de la résignation dont doivent s'inspirer les déshérités dans l'attente de la béatitude promise au royaume des cieux. Pardonnez-moi si je vois en lui le symbole du juste qui combat et se sacrifie pour apporter plus de bonheur sur la terre des hommes. Et il y avait certainement des formulations beaucoup plus fortes que celles de René Andrieux répondant à cette question. Le deuxième exemple que je donnerai, qui est beaucoup plus flagrant, c'est évidemment Nietzsche, qui renverse complètement les valeurs de l'Évangile. Je pourrais vous lire un paragraphe que j'ai là, mais ce serait un peu long. Il dit, avec un grand antisémitisme, que finalement ce sont les Juifs, par ressentiment, qui ont prôné la faiblesse, la patience, voilà, tout ça, parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement, et que Jésus, arrivant par derrière, a fait sien le message des Juifs, l'a porté à son sommet, et ça devient l'expression suprême du ressentiment des faibles. Donc, indigne de l'homme, et il faut évidemment écarter cette faiblesse pour que l'homme puisse s'exprimer par lui-même et par sa force. Bon. Et chez Nietzsche, cette pensée-là sera érigée en système. C'est lui qui développe la pensée du surhomme. Voilà le commentaire qu'en fait quant à la Messa. Jésus a fait que la grandeur ne consiste plus à s'élever seul au-dessus des autres, au-dessus de la masse, mais à s'abaisser pour servir et élever les autres. Et c'est vrai qu'il y a une véritable révolution de l'esprit du monde par rapport à l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça que ne supporte pas Nietzsche en disant « mais l'esprit de l'Évangile sape tout parce qu'il empêche l'effort de s'exprimer ». Nietzsche, on le sait, ne partageait pas cette vision. C'était pour lui une morale d'esclave fondée sur le ressentiment naturel des faibles envers les plus forts. Le christianisme, en prêchant l'humilité et la douceur, le devoir de se faire petit, de tendre l'autre joue, aurait introduit, pensait-il, comme une sorte de cancer à l'intérieur de l'humanité, brisant et mortifiant du coup son élan et toute sa vie. Voilà, je vous passe la suite. Certains ont cherché à réhabiliter un peu Nietzsche en disant que Nietzsche ne s'en prend pas au Christ lui-même, qu'il s'en prend au christianisme, ou plutôt à certains chrétiens qui, et en fait, la pensée de Nietzsche, c'est vraiment au Christ qu'il s'en prend. Un troisième exemple que je vous donne de cette vision de la douceur comme une faiblesse, c'est celle que j'ai trouvée chez Comte-Sponville, qui est un philosophe très à la mode, qui a écrit un livre très lu, très vendu, Petit traité des grandes vertus. Comte-Sponville est un auteur athée, c'est son droit. Il est certainement pétri de christianisme. Et voilà, je pense que c'est une lecture qu'il faut faire avec beaucoup de prudence, parce qu'il va dire des choses très très bien, mais petit à petit, au gré des phrases, il nous emmène dans une direction qu'il ne faudrait pas, à mon avis, pas suivre. Et donc, dans son petit traité des grandes vertus, il a un chapitre sur la douceur. Et voilà la première phrase de son chapitre. La douceur est une vertu féminine. Ce qu'elle a de féminin, ou qui paraît tel, c'est un courage sans violence, une force sans dureté, un amour sans colère. Alors, je suis assez d'accord pour dire, après tout, pourquoi pas la douceur dans ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la douceur est une vertu féminine. Parce que ça laisserait entendre qu'un homme qui serait doux ne serait pas un homme viril, qu'une femme qui serait douce ne pourrait pas être forte, et que quand Jésus adresse ses béatitudes, il ne faut pas oublier qu'il a la foule devant lui, on l'a dit la dernière fois, et qu'il a en particulier devant lui les premiers qu'il va regarder avant de commencer son discours, ce sont ses disciples, que ses disciples ce sont des hommes. Il y en a un qu'on traite de l'homme le plus humble que la terre ait porté, c'est Moïse. Et Moïse est un homme. Et que celui qui va se donner en modèle, mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur, c'est le Christ. Et je pense qu'il faut qu'on découvre aujourd'hui justement que la véritable douceur n'est ni masculine ni féminine, que les hommes et les femmes doivent contempler le Christ et recevoir de lui cette force extraordinaire qui peut tout balayer, qu'on appelle la douceur, qui est une force intérieure et qui fait qu'on est un roc inébranlable face à tous les assauts qui peuvent arriver. Alors, troisièmement de cette première grande partie, ce qu'est la véritable douceur. Loin d'être un signe de faiblesse, la douceur, dit quelqu'un, c'est la plénitude de la force. Avant d'être une manifestation extérieure, c'est une force intérieure qui n'éprouve justement pas le besoin des grandes manifestations extérieures. Et on va voir d'où vient cette force intérieure. C'est elle qui permet de recevoir les événements qui arrivent sans se laisser troubler. Vous connaissez peut-être la prière de la sérénité. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. » Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. La douceur et la patience s'engendrent mutuellement. Cassien, qui est un saint marseillais, parle de l'inaltérable douceur de la patience. Et la patience, elle a deux directions. Elle se déploie dans deux directions. Je suis face, par exemple, à quelqu'un qui m'énerve. Il faut que je reste calme et que ma patience soit plus forte que mon désir de m'énerver. Ça, c'est ponctuel maintenant. Et la patience, elle a un deuxième sens. C'est être capable d'attendre un résultat dans la durée, un résultat qui se fait attendre. Attendre une réalisation de quelque chose qu'on m'a promis mais qui n'arrive pas tout de suite. Et donc, je suis patient parce que je sais attendre. Et quand je développe cette patience en moi, eh bien, j'acquiers cette douceur qui me permet de relativiser les événements parce que je ne les prends pas sur l'instant, mais que je les replace dans un contexte plus large qui fait qu'ils sont plus relatifs. Il y a aussi une douceur, ce n'est pas qu'un comportement physique, Il y a une douceur dans la façon d'aborder la réalité des choses et la vérité. Je reçois humblement la vérité et j'essaye de m'en laisser façonner. Je ne torture pas la vérité pour la faire entrer dans ce que moi je pense. Et je ne force pas quelqu'un à croire la vérité s'il n'a pas envie de la croire, s'il n'a pas envie de la recevoir. Donc par rapport à la vérité, il y a aussi une douceur. Et je vous donne cette phrase du Père Carré qui nous introduit à la deuxième grande partie. La douceur, comme l'humilité, ne concerne le prochain qu'après avoir pris sa source à la plus haute altitude. Et la plus haute altitude, c'est évidemment le Christ pour nous, le Christ pour tout homme. C'est lui le maître et qui nous invite à le contempler pour apprendre de lui, qui nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Donc, grand 2, la douceur du Christ. Premièrement, la douceur et la force de Jésus, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Il y a d'abord une douceur et une humilité dans la vie publique de Jésus, et les deux sont liés. Jésus dit lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Chez le Christ, cette douceur, elle est apaisante, elle sécurise, parce que justement, on sent qu'elle est alliée à une force. Il y a une force physique et morale qui se dégage de Jésus, qui fait que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va l'écouter lui ? On reconnaît son autorité et qu'on n'écoute pas les scribes. Il n'y a chez le Christ aucune mollesse, aucune mièvrerie. Il n'est pas, comme dit Ernest Renan, le doux rêveur de Galilée. Et cette douceur et cette force, elles sont alliées chez lui avec une très grande humilité. Il n'est pas venu pour être servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce service, il l'exprimera le jeudi saint en se mettant à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Et ce don de lui-même, il l'exprimera le lendemain sur la croix. J'allais dire que Jésus est une force tranquille. Quand la brebis est mise sur les épaules de Jésus, la brebis se sent parfaitement en sécurité. Elle n'a plus rien à craindre. Sous le regard de Jésus, le pécheur se sent à la fois guéri par la puissance de sa miséricorde et accueilli par sa douceur et par sa tendresse. La femme hémorroïse qui veut être guérie se dit « Il suffit que je touche la frange de son manteau ». Et l'Évangile nous dit que Jésus sentit une force sortir de lui. Il y a une force qui émane de Jésus, ne serait-ce quand on le touche par derrière sans rien lui demander, sans rien lui dire. Douceur pleine de bonté qui se manifeste envers chacun. C'est une douceur miséricordieuse que Zachée a sentie immédiatement quand Jésus a levé les yeux vers lui. Douceur pleine de tendresse qu'ont ressenti les enfants à chaque fois que Jésus croise un enfant. Voilà, douceur que Jésus manifeste à chaque fois qu'il croise un enfant qui se penche vers eux pour les bénir et les embrasser. Quand quelqu'un est regardé par le Christ, il voit à travers lui l'image du Dieu invisible, le reflet, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il voit tout ça à travers le regard de Jésus. Saint Paul, à qui Jésus est apparu après la Pentecôte, confesse la douceur et l'indulgence du Christ. Mais chez le Christ, cette indulgence n'est jamais une indulgence coupable, elle n'est pas l'expression d'une mauvaise douceur, car elle n'est ni résignation, ni complicité, ni abdication, ni effacement. Et paradoxalement, le moment où cette douceur se manifeste le plus dans la vie de Jésus, c'est dans sa passion. À l'heure où la violence est la plus forte physiquement et moralement contre lui, c'est là où se révèle le plus la passion, la douceur et la force en même temps de Jésus. Et ce n'est ni crainte, ni lâcheté, ni faiblesse de sa part. Et cette force, c'est d'être capable en même temps de parler quand il faut parler. Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai dit quelque chose de mal, répète-moi ce que j'ai dit de mal, mais sinon pourquoi me frappes-tu? Donc il n'est pas intimidé par la force, mais en même temps il n'est pas intimidé non plus par l'autorité de Pilate, et quand il n'a pas besoin de répondre, quand il ne veut pas répondre, il reste en silence, mais ça n'est pas de la lâcheté de sa part. Quand on vient l'arrêter, nous voulons le Jésus, le Christ, c'est moi, et les soldats reculent et tombent à terre. Voilà, il y a une puissance qui se dégage de Jésus. Cette force intérieure qui lui permet de se laisser dépouiller de ses vêtements sans couture, après qu'on lui ait enlevé tous ses autres vêtements, c'est l'application de tout ce qu'il dira dans le discours sur la montagne, les décrets d'application très concrets. Quand on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Il ne rend pas coup pour coup. Il ne recule pas la tête quand on le gifle. Il n'a pas demandé à son père d'envoyer 12 légions d'anges pour affronter les soldats qui venaient l'arrêter. Voilà, cette force intérieure lui permet d'affronter toutes les situations, y compris les plus violentes. Et il me semble que cette force et cette douceur se dégagent dans son face-à-face avec Pilate. Il y a celui qui a l'autorité et qui juge et qui interroge, c'est Pilate. Il y a celui qui est prisonnier et qui est interrogé, c'est Jésus. Et on sent très bien la gêne de Pilate dans ses questions et la paix, la liberté de Jésus quand il répond. Est-ce que tu me dis cela toi-même ou est-ce que tu es au service de ce que d'autres t'ont demandé de dire parce que tu as peur pour ton poste, parce que tu n'es pas libre ? Est-ce que tu obéis à ta conscience en me disant ça? Je te rappelle que c'est pas dit dans l'évangile, mais ta femme hier soir t'a encore dit ne t'occupe pas du sort de cet homme parce qu'il est innocent. Tu penses toi-même au fond de ton cœur que tu as la conviction intime que je suis innocent. Donc est-ce que toi qui me juges, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux? Ou est-ce que moi qui suis jugé par toi, toi qui n'aurais aucun pouvoir si ça ne t'était pas venu d'en haut? Voilà. Qui est le fort entre les deux? Si j'accepte d'être là en ce moment devant toi, c'est parce que ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc je reste encore aujourd'hui, en cet instant, le maître de la situation. Force et autorité du Christ. Il y a à chaque instant le zèle de la maison du Père qui le dévore. Il est impatient d'annoncer le royaume et de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et malgré son impatience, il va commencer par vivre 30 ans de vie cachée, alors qu'il est envoyé pour mourir sur la croix et ressusciter afin de sauver les hommes. 30 ans de vie cachée. Et quand il commence son ministère public, 40 jours à rien faire au désert. Enfin, rien faire. Voilà, cette patience qui fait que il maîtrise aussi le temps et qui ne se laisse pas prendre par une espèce d'agitation, même pour la bonne cause. Cette force intérieure qui fait que quand il parle et quand il parle et il agit avec autorité. Donc il commande aux éléments naturels, il apaise la tempête, et il commande aux éléments en guérissant les malades, en faisant voir les aveugles. Et quand il parle avec autorité et non pas comme leur scribe, dit l'Évangile. Le père Karl Adam fait ce portrait du Christ. Quand les soldats, pendant sa passion, lui crachent au visage, le frappent, lui mettent sur la tête une couronne d'épines, il se tait. Rien de plus éloquent que ce silence. L'œil de Jésus sait voir à travers les voiles des passions humaines et pénétrer jusqu'au plus intime de l'homme, là où il est seul, pauvre et nu, là où il n'a que sa misère, là où il dépend d'une infinité d'influences du corps, de l'âme et de la société, en un mot, jusqu'à l'homme infirme et misérable. Et il est venu pour ça, pour que dans ce moment de violence contre lui, il voit au-delà de cette violence il voit l'histoire de chacun qui l'a peut-être conduit aujourd'hui à avoir cette attitude. Et voilà, il y a quelque chose d'infiniment... cette douceur, c'est l'expression de sa miséricorde et de l'amour pour chacun. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas juger, même lorsqu'on le tourmente. Voilà pourquoi il ne veut que pardonner et toujours pardonner. Je te le dis, Pierre, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Dans tout cet amas de misère et de faiblesse que constitue la pauvreté humaine, un lot l'attirait particulièrement, celui des pauvres, des malades, des pécheurs. Il ne peut dire non quand c'est la souffrance qui crie vers lui, fût-ce sous la forme d'une païenne, d'une syro-phénicienne. Il ne peut s'empêcher de guérir un malade, même lorsqu'il s'exposera ainsi à l'accusation de violer le sabbat. Il ne peut s'empêcher d'aller avec les publicains et les pécheurs, dût-il par là scandaliser fort les pieux observateurs de la loi. Il ne peut s'empêcher de dire, même au milieu des tortures, de sa propre agonie au bon larron, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Deuxièmement, dans ce grand 2, la source de cette douceur. D'où lui vient cette force qui lui permet de se manifester doux et humble en permanence? Je vois 2 sources. La première, c'est une source divine, une source éternelle. Et cette source, c'est évidemment le cœur du Père, dont il est le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance, dit l'Épître aux Hébreux. Il reçoit cette humble force de son union avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et lorsqu'il se retire seul pour prier, il puise sa force d'une solitude à deux avec son Père. Il reçoit de son Père un fondement solide pour son humanité, un bien-être que rien ne peut troubler. En fait, je pense que fondamentalement, c'est la joie. Quand je suis bien, quand je suis heureux, j'ai pas envie d'être méchant vis-à-vis des autres, j'ai envie d'être bienveillant, je souhaiterais leur faire du bien, je souhaiterais que tout le monde partage mon bonheur. C'est le fruit de son amour et de sa piété filiale. Et cette paix, elle est chez lui confortée en permanence par le fait, j'allais dire, qu'il a la conscience tranquille, la conscience du devoir accompli. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà, à chaque instant, il fait ce qu'il doit faire par piété filiale, et ça lui procure une paix que rien ne peut enlever, inébranlable. Lui qui, de toute éternité, est uni à son Père par leur esprit commun, se trouve aussi dans son humanité consacrée par l'onction. Et cette paix, elle est aussi une paix, une douceur et une humilité humaine qui est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22-23. C'est parce que le Saint-Esprit est en lui qu'il a cette douceur et cette force. On pourrait développer davantage, mais je passe à la deuxième source, qui est une source humaine. Ce cœur humain se manifeste à chaque instant, qui se manifeste à chaque instant a aussi humainement été façonné lorsque le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Il a donc également une source humaine, temporelle, le cœur immaculé de Marie. J'ai lu dans une petite brochure « Le pari de la douceur » cette petite phrase. « Le visage du Seigneur en sa douceur » a peut-être besoin pour se révéler pleinement du visage de la douce Marie. Il avait besoin d'être contemplé, d'être reconnu par le visage de tendresse de sa mère. Un visage qui n'existe jamais que dans un amour qui se révèle. Et quand l'Évangile dit que Jésus grandissait en grâce, en taille et en sagesse, cette paix intérieure, cette grâce, cette sagesse, lui viennent aussi du fait d'avoir grandi sereinement dans une famille unie et entourée d'un père adoptif et d'une mère qui l'aiment tendrement et qui s'aiment entre eux. Quand Saint Joseph se penche sur le berceau, le petit enfant Jésus qui est là voit dans le visage de son père qui se penche vers lui le reflet de la tendresse de son père éternel. Et pour nous, ça, quand on se penche sur le berceau d'un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, on devrait être le reflet d'un amour plus grand. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Combien Dieu doit m'aimer puisque déjà mon Père terrestre m'aime autant ?» Et la Vierge Marie n'a pas donné que ses traits physiques à Jésus. Elle tient aussi de lui son éducation, ses traits de caractère, parce qu'elle lui a transmis par l'éducation qu'elle lui a transmise, par des discours et par son exemple. Il a en permanence sous les yeux la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, pleine de grâce, et Saint Joseph. Quand on veut connaître l'espèce particulière d'un arbre, on regarde la terre qui contient ses racines, qui lui donne le suc qui monte dans le tronc, les branches, les fleurs et les fruits. Ne sera-t-il pas bon de regarder aussi le sol d'où a jailli le Seigneur, Marie, sa mère? Toute la vie de Jésus est baignée dans la présence maternelle de Marie, dont la plus grande force est son silence. Marie est celle qui a porté le Seigneur au plus profond d'elle-même, à travers toute sa vie et jusque dans la mort. Donc Jésus, un homme doux et humble, et troisièmement de ce grand deux, qu'en est-il alors des colères de Jésus? Je parle des colères au pluriel parce qu'on connaît spontanément la sainte colère de Jésus au temple, mais il y a des propos qui sont pleins de vivacité. Et je cherchais la référence que je n'ai pas trouvée, mais si on relit tout l'évangile, on verra qu'à certains moments, il y a au moins un passage où devant la foule, ou devant les gens qui sont là, Jésus projeta sur eux un regard de colère. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le cœur de Jésus, de cet homme fils de Dieu qui est doux et humble, il y a de la colère, qui n'est pas un péché, puisqu'il ne peut pas y en avoir dans le cœur de Jésus, et donc qui est aussi l'expression à ce moment-là de son amour pour les hommes. Jésus ne se comporte pas comme un stoïcien qui ne se trouble jamais. Il commande avec violence à Satan, il menace durement les démons. Il est hors de lui devant l'astuce diabolique des hommes, et spécialement des pharisiens, de ceux qui tuent les prophètes, des hypocrites. Comme Yahvé, Jésus se dresse en colère contre quiconque se dresse contre Dieu. Sa colère vient du fait qu'on met un obstacle à sa mission. Et vous connaissez ce passage où les parents amènent à Jésus les enfants pour qu'il les bénisse, les disciples renvoient les parents et Jésus se fâche contre ses disciples parce qu'en cet instant, ils sont un obstacle à l'accomplissement de sa mission. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour tout le monde, y compris les enfants, et même les enfants, j'allais dire d'abord, puisqu'ils vont servir de modèle aux adultes pour dire « si vous ne revenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Lorsque le ton et les propos ordinaires n'arrivent pas à surmonter la dureté du cœur de ses auditeurs, ou lorsqu'ils se heurtent à l'endurcissement des cœurs, alors il va même jusqu'à prononcer des paroles de malédiction. Le Père Cantalamessa explique ainsi les colères de Jésus. Dieu n'est pas tantôt sévère, tantôt bienveillant, au gré de quelques caprices. Il n'use pas arbitrairement et sans motif tantôt de sa toute-puissance, tantôt de sa miséricorde. L'explication de cette ambivalence la voici. Dieu est bon, plein de tendresse envers le pécheur. Il est saint, terrible et implacable à l'égard du péché. Ce qu'exprime une formule attribuée à saint Augustin, « Je hais tes œuvres, toi je t'aime ». Dieu n'a ni haine ni mépris pour ses créatures. Ce qu'il hait, et jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire jusqu'à ses extrêmes conséquences, c'est ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas voulu, le mal. Et le mal est le premier destructeur de la créature. Sa colère contre le péché est donc une colère contre l'ennemi commun, en définitive, elle est amour. Aussi, quand nous entendons Dieu lui-même déclarer « Dans ma colère, je t'ai frappé, dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi », Isaïe 60, comprenons-en bien la signification « J'ai frappé ton mal par pitié pour toi. » En quel sens alors le crucifix est-il la révélation suprême du Dieu vivant de la Bible, au sens que la croix est le non le plus terrible au péché et le oui le plus aimant au pécheur? Troisièmement, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Deuxièmement, troisièmement, grand 3, mettez-vous à mon école. Pourquoi se mettre à l'école de Jésus? Parce que nous avons le cœur dur. Notre cœur a été abîmé par les conséquences du péché originel sur la nature humaine, donc sur la nôtre, et notre cœur s'est encore abîmé par les péchés que nous avons personnellement commis. Et cette dureté de cœur, elle est dénoncée dans toute la Bible. Isaïe, pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Et cette dureté de cœur, elle est liée au fait que nous nous éloignons de Dieu, que nous bâtissons notre vie sans lui. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Je me lève le matin et je ne confie pas ma journée au Seigneur parce que de toute façon, moi, d'abord, il n'a pas de place dans ma vie et ma vie, je la mène tout seul. C'est le reproche que Jésus fait, par exemple, aux scribes et aux pharisiens qui viennent le coincer à propos du mariage. Est-il permis de répudier sa femme? Non, c'est pas permis. Mais pourtant, Moïse a permis qu'en certaines circonstances, on le fasse. Et Jésus répond, si Moïse l'a permis, c'est à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et les béatitudes nous rappellent que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans cet état de conséquence du péché, mais que nous sommes ce qui était prévu au commencement, à l'origine, est à nouveau possible, et quelque chose d'encore mieux que ce qui était prévu et donné par Dieu au commencement. Donc la situation n'est pas bloquée par la dureté de notre cœur, tout est possible et les béatitudes sont le rappel de ce que le Christ nous donne pour que ce soit rendu possible. Saint Étienne, dans les Actes des Apôtres, se plaint. Nuque raide, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Et donc, nous avons, pour nous mettre à l'école de Jésus, pas seulement à le regarder vivre pour voir ce que sont la douceur et l'humilité, mais à l'imiter dans notre vie. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres, ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. C'est le début de l'hymne aux Philippiens, vous savez, c'est cet hymne où saint Paul va ensuite parler de l'abaissement de Jésus. Donc, il nous faut avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et quels ont été ces sentiments dans le Christ Jésus? Une profonde humilité qui l'a amené à ne pas revendiquer le droit qu'il avait d'être traité à l'égal de Dieu, de s'abaisser jusqu'à l'incarnation, jusqu'à être reconnu comme un homme, et de s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix, cette mort ignominieuse. Donc, le sentiment de Jésus, c'est cette humilité d'accepter tous ces abaissements successifs. Et qu'est-ce qui permet à Jésus d'accepter cette situation? C'est parce qu'il a une identité qui est vraie de toute éternité et qui reste vraie dans son incarnation. Cette identité nous est révélée au baptême de Jésus et à la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et le fondement de l'être du Christ, c'est d'être de toute éternité le Fils bien-aimé du Père. Autrement dit, pour nous mettre à l'école de Jésus, pour l'imiter, on va se dire, je ne peux pas l'imiter comme, au point où il l'a fait. Et donc, le fondement, c'est d'accepter de nous recevoir comme enfants de Dieu, comme fils et comme filles bien-aimées du Père. Vous savez ce que saint Jean écrit dans sa première lettre. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et, saint Paul, nous sommes prédestinés à reproduire l'image de son Fils afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Le baptême nous a établis dans une identité nouvelle, cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème, d'être l'enfant, les enfants bien-aimés du Père. C'est l'identité la plus grande, la plus stable, la plus belle que je n'aurai jamais. Quoi que par ailleurs je dise, je fasse, quoi que les gens pensent de moi, toutes les plus grosses bêtises que je puisse faire, je reste et je resterai l'enfant bien-aimé du Père. Et je peux me mettre à ce moment-là à l'école de Jésus, parce que ce que lui est de toute éternité, moi je le suis devenu par grâce au moment du baptême. Et alors, je prends conscience que être à l'école, c'est pas faire, mais c'est laisser faire. Je ne suis pas devenu enfant de Dieu par mes propres moyens, il m'a adopté et il m'a établi enfant de Dieu. Et cette certitude que j'ai, quoi qu'il arrive, d'être le fils ou la fille bien-aimée du Père, ce que nous devrions entendre à chaque fois que nous faisons un baptême, me pacifie. J'ai une identité qui ne dépend de rien d'autre, de contingent dans le monde et de personne. J'ai une stabilité intérieure d'où je vais tirer ma force parce qu'elle est plus forte que tout. Et c'est parce que je reçois cette identité d'où je vais tirer ma force que je serai véritablement libre de ne pas me positionner par rapport à ce que tel ou tel va penser de moi, de ce que les autres pourraient dire si je fais telle ou telle chose ou si je ne les fais pas. Je suis libre d'agir en enfant de Dieu. Et donc, j'ai une raison, la raison fondamentale de pouvoir accomplir le troisième commandement. Enfin, il y a deux commandements, mais il y a trois amours. L'amour de moi-même. Je dois m'aimer moi-même parce que je suis aimable, parce que Dieu m'aime, sans condition. Donc moi, je n'ai pas à me donner des conditions pour m'aimer moi-même. Et celui qui s'appuie, vous comprenez bien que celui qui s'appuie sur cette certitude, cet amour, cette certitude d'être aimé de Dieu qui fait que je m'aime moi-même, légitimement, je ne suis pas faible. Cette douceur-là ne peut pas être une faiblesse. C'est au contraire la garantie d'être aussi fort que je ne le serai jamais. Parce que ce n'est pas ma force, c'est celle que je reçois. Je suis fort parce que je suis délivré de la peur. Et cette force, cette assurance interne, elle doit commander mon attitude à l'extérieur et permettre que je sois vis-à-vis des autres doux et humble parce que je n'ai rien à leur prouver. Existant sous le regard de Dieu, je n'éprouve pas le besoin de vouloir écraser les autres. Je ne serai pas plus grand sous le regard de Dieu parce que j'aurai écrasé les autres. Cette illustration que Jésus a donnée dans sa passion de la douceur authentique, de cette force qui fait que non seulement je ne chercherai pas à tuer les autres, mais que je ne les injurierai pas, dit Jésus dans le discours sur la montagne, que non seulement je ne rendrai pas coup pour coup comme la loi du talion, mais que je tendrai l'autre joue, cette force, elle a sa source ici, dans cette certitude que rien, même un coup reçu, ne peut m'enlever ce que j'ai. Alors, je le développerai un peu plus quand on parlera de la béatitude des artisans de paix. Je peux me trouver comme ce que dit le psaume. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Et cette douceur envers moi-même me permet de lutter contre la colère qui peut poindre à tout moment dans mon cœur. Et souvent, pourquoi je suis en colère vis-à-vis des autres ? Parce qu'au départ, je suis en colère contre moi. Je viens de faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, voilà, toujours souvent de l'orgueil par rapport à l'image que je voudrais avoir de moi-même. Et donc, parce que je ne suis pas en paix intérieurement, le premier qui rentre dans la salle, il va prendre. Ce qui est profondément injuste, mais au bureau, voilà, mon patron a été insupportable, la journée a été difficile, mais je ne peux rien dire à mon patron, je rentre à la maison, paf, c'est ma femme qui prend. J'imagine, hein, parce que moi je ne suis pas. On dit de quelqu'un qui est en colère qu'il est hors de lui. Et ma force, si vraiment je suis enraciné en moi-même, et ben voilà, ça m'empêchera d'être hors de moi-même. Alors voilà les degrés de cette lutte contre la colère. C'est très, très pratique, c'est Saint Jean Climaque. Le commencement de cette victoire sur la colère, c'est le silence de notre langue. Le progrès de cette victoire, c'est le silence de nos pensées. La perfection de cette victoire est une stable et constante fermeté de notre âme au milieu des tentations. Bon, j'avais quelques citations, une de Jean-Paul II et de Saint-François de Sales, qui est le maître de la douceur, mais que je laisse parce que pour vous laisser le temps de poser éventuellement des questions. Cette douceur n'étouffe pas la passion. Saul était un homme passionné. Les Actes des Apôtres nous disent de Saul qu'il ne respirait que menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur. C'est un violent. Et cette violence, comme il ne connaît pas le Christ, elle est mal canalisée, elle est mal orientée. Donc c'est le carnage contre les disciples de Jésus. Quand il rencontre le Christ et qu'il se convertit, le changement de nom est le symbole extérieur de cette conversion du cœur, il reste un homme passionné qui affronte les tempêtes, les naufrages, les coups, les bêtes féroces, tout ce qu'il raconte dans ses lettres. Mais heureusement, s'il n'était pas passionné, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Quelquefois, il y a des parents qui me parlent de leurs enfants et qui me disent « Oh, il est dur, il a du caractère. » Je lui dis « Réjouissez-vous, ça fait les plus grands saints. » Ce qu'il faut, ce n'est pas le brider, c'est canaliser pour que ce soit orienté dans la bonne direction. Quand vous arrosez, soit vous mettez « j'ai pluie » et ça tombe à vos pieds, il n'y a que des petites gouttes, soit vous concentrez tout et ça part très très loin. Eh bien, il faut que notre passion, notre violence, puisqu'il peut y avoir une bonne violence, elle soit canalisée. Que je sache vers où l'orienter. Et le drame de cette violence Oui, tiens, je ne pensais pas vous dire ça, mais tous les candidats djihadistes, là, il y a une violence, mais on a une société qui engendre la violence. Et elle part dans tous les sens. Si ces gens-là connaissaient le Christ, qu'est-ce qu'ils feraient pour l'Évangile ? Le Père, quant à la Messa, voilà, cette douceur, elle commence à la maison. Je suis persuadé qu'on vivrait d'autant mieux en famille s'il y avait un peu plus de gentillesse dans les gestes, les paroles et avant tout les sentiments du cœur. Rien ne gâche plus la joie d'être ensemble que les manières grossières. Vous voyez, la douceur, c'est une atmosphère. C'est les gestes que je fais sans violence, mais avec douceur. Je ne claque pas une porte. Quand on était au séminaire, on nous avait de temps en temps des lectures spirituelles. Et quelquefois, ça portait sur le silence. Le silence, ce n'est pas simplement l'absence de parole. Le silence, c'est être capable de créer une atmosphère qui favorisera ma rencontre intérieure avec le Christ présent en moi. Et donc, il y a une façon, dans une communauté qui vit, d'essayer d'être doux, d'être silencieux, pour que la qualité non seulement spirituelle, mais humaine se développe. Je ne claque pas une porte, je ne mets pas la radio à fond, je ne mets pas forcément la télévision dès que je rentre. Bon. Je vous lis le témoignage d'Ingrid Betancourt, qui avait été retenue en otage par les FARC en Colombie. Être otage vous place dans une situation de constante humiliation. Vous êtes victime de l'arbitraire complet, vous connaissez le plus vil de l'âme humaine. Face à cela, il y a deux chemins. Soit on se laisse enlaidir, on devient aigre, hargneux, vindicatif, on laisse son cœur se remplir de rancune, soit on choisit l'autre chemin, celui que Jésus nous a montré. Il nous demande « Bénis ton ennemi ». À chaque fois que je lisais la Bible, je sentais que ces mots s'adressaient à moi, comme s'il était en face de moi, qu'il savait ce qu'il fallait me dire. Et cela m'arrivait droit au cœur. Bien sûr, je reconnais que lorsque l'ennemi est atroce, c'est difficile d'être fidèle à cette parole. Pourtant, dès que je faisais l'exercice de prononcer « Bénis ton ennemi », alors que j'avais envie de dire tout le contraire, c'était magique. Il y avait comme une espèce de soulagement, et l'horreur disparaissait tout simplement. Si je n'avais pas eu le Seigneur à mes côtés, je ne pense pas que j'aurais réussi à grandir dans la douleur. Grandir dans la douleur. Quatrièmement, grand 4, vous posséderez la terre. Heureux vous les doux, car vous posséderez la terre. Le but des béatitudes, je le rappelle, ça n'est pas d'acquérir des vertus. Le but, ce qui est en jeu, c'est le salut de l'homme. La pauvreté, c'est pas pour être pauvre. On l'avait dit, c'est pour libérer un espace dans notre cœur que le Seigneur pourra remplir avec des choses infiniment plus importantes que tout ce qui peut nous encombrer. Et lui-même d'abord. Et mon salut, il consiste à retrouver mon union avec Dieu. Le Christ se fait humble pour racheter l'humanité entière que l'orgueil avait perdue. Cette douceur et cette humilité, c'est pour me rendre apte, me favoriser les bonnes conditions pour accueillir ce que le Seigneur veut me donner. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de pouvoir se dire « je suis doux et humble ». Alors, qu'en est-il de cette terre qui est promise en héritage ? Évidemment, il ne faut pas comprendre ça au sens littéral d'une portion de territoire et encore moins de vouloir maîtriser la planète. Ça, c'est un rêve de dictateur contre lequel Jésus nous met en garde. À quoi servirait à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Ce que Jésus veut donner en héritage, ce n'est pas le monde, c'est son royaume, et mon royaume n'est pas de ce monde. Et l'humilité, c'est l'échelle qui nous permet de passer de la terre au royaume de Dieu. Dans le commentaire des béatitudes qu'il donne, Mgr Lustiger dit que la terre, c'est nous-mêmes, c'est notre personne. Non, attendez, j'ai sauté. La terre dont il parle n'est pas celle où il parle. Il désigne donc une réalité d'un ordre qui n'est pas terrestre ni matériel, mais spirituel. C'est le royaume des cieux, ou de manière équivalente, le règne de Dieu. La terre dont il est question est le lieu de la sainteté, de l'amour, du pardon, le lieu de la divinisation de l'homme, le lieu où enfin la vie humaine transfigurée par la grâce divine reçoit toute sa beauté. Et c'est le Père Carré qui dit « Cette terre, c'est notre personne ». Posséder la terre, n'est-ce pas d'abord se posséder soi-même ? À la place de son cœur de pierre, Dieu lui a donné ce cœur de chair qu'annonçait Ézéchiel. On a changé notre cœur dur contre un cœur tendre. Cet homme jusque-là enfermé en lui-même, disons plutôt qu'il est délivré, arraché à une étroite et obscure prison. Et le père Thomas Philippe, le cofondateur de l'Arche, poursuit cette idée du père Carré. La terre, c'est d'abord cette petite terre qu'est notre propre personne, lorsque le Saint-Esprit a pu bien la pénétrer, s'en emparer pleinement. La terre, c'est aussi le corps très saint de Jésus, la terre promise. Et le meilleur moyen pour vivre cette béatitude de la douceur, c'est finalement de savoir adorer Jésus Eucharistie dans un cœur à cœur. L'Eucharistie est le sacrement qui nous donne la présence de Jésus et nous apporte le plus de douceur. Alors cette association des deux mots « terre » et « héritage » nous fait penser à la promesse d'une terre que Dieu promet de donner en héritage à Abraham, c'est la terre promise, et promesse qu'il va renouveler ensuite à tous ses successeurs, Isaac, Jacob, puis encore dans la captivité en Égypte, et Moïse sera chargé de faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais on comprend avec Jésus que la terre promise n'est plus un territoire géographique. La terre promise, c'est lui-même. Et avoir la terre en héritage, c'est être capable de recevoir le Christ et d'en vivre. Comment ne pas désirer posséder cette terre, en hériter pour y vivre, mieux pour y vivre vraiment, car c'est le lieu de la vie véritable dans toute sa plénitude divine. Et il s'agit bien d'hériter de cette terre et pas de l'acquérir. La conquête de la terre est un don de grâce, elle révèle la force secrète des humbles et des doux. Ils ne conquièrent pas ce qu'ils reçoivent de Dieu en héritage, dit Mgr Lustiger. Et je terminerai par un petit point qui peut nous étonner, qui est au début du chapitre 11. À la fin du chapitre 11 chez saint Matthieu, nous avons ce passage que nous avons commenté un peu tout au long de l'entretien. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Ça, c'est la fin du chapitre 11. Au début du chapitre 11, nous avons Jean-Baptiste qui est en prison et qui envoie des disciples demander à Jésus « Es-tu bien celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus renvoie les disciples en disant « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. » Vous voyez les aveugles voir, les boiteux marcher, etc. Les disciples repartent et ils restent autour de Jésus, ses disciples à lui. Et Jésus ajoute cette phrase « En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence et des violences en emparent. » Que veut dire cette phrase ? J'étais content de voir dans les notes qu'ils étaient embarrassés pour répondre. En fait, il donne plusieurs propositions pour éclairer ce sens que je vous retransmets. Une première explication, ce serait d'expliquer ce verset par le mystère de la croix. Qu'est-ce qui permet de passer des réalités terrestres au royaume des cieux ? La violence de la croix. N'accèdent donc au royaume que ceux qui acceptent la violence de la croix dans leur vie. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il s'agit alors de la sainte violence de ceux qui s'emparent du royaume au prix des plus durs renoncements. Origène, au IIIe siècle, donne une autre explication. Il dit qu'on vivait relativement dans la paix avant Jésus, et que Jésus a apporté une certaine violence parce que maintenant il va falloir se déterminer par rapport à ses paroles. Et Jésus dit, à l'intérieur d'une même famille, on se dressera le père contre le fils contre la fille contre la mère, etc. Et on se détermine et quelquefois on s'oppose même à propos de Jésus. Voilà, donc ça n'ira pas sans violence, sans difficulté, sans lutte, sans combat, que de prendre résolument le parti du Christ. Le pape Pie XII propose une autre explication. Il canonise sainte Maria Goretti. Maria Goretti, c'est cette jeune fille de 12-13 ans, je ne sais plus, qui est morte, qu'on considère comme martyre, parce qu'elle a préféré mourir par des coups de couteau de son assassin plutôt que d'être abusée par celui qui l'attaquait. Donc elle en a perdu la vie, et avant de perdre la vie, elle lui a pardonné. Et elle est préparée à ça, à ce geste ultime, par toute une vie de prière et de... Et Voilà ce que dit Pie XII dans son homélie. Il y a cette forme du martyr brutal, direct, qui est celle que nous célébrons aujourd'hui dans Sainte Maria Goretti, qu'elle n'a pu acquérir que parce qu'elle avait développé auparavant de la vertu. Et cette vertu exige de l'énergie. Sans atteindre le même sommet de courage que cette jeune fille angélique, elle réclame néanmoins de notre part une activité persévérante, attentive, qui ne devra jamais se relâcher jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi on peut parler d'un martyr lent et prolongé, auquel nous incite cette affirmation de Jésus-Christ: depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence et des violences en emparent. Autrement dit, il faut se faire violence à soi-même. Parce que ma pente naturelle blessée par le péché, c'est d'être paresseux. Donc d'en faire le moins possible. Et la loi du moindre effort, c'est incompatible avec l'Évangile qui nous dit justement, si tu poses des limites à l'amour, tu commences déjà à ne plus aimer. Et donc il faut que je me fasse violence pour acquérir des vertus que je vais développer, qui vont me permettre d'acquérir ce désir de pauvreté, cette humilité, cette douceur, cette soif de justice, tout ce qui est développé dans les béatitudes. Donc cette violence, c'est celle que je me ferai à moi-même contre ma nature blessée par le péché, pour laisser la grâce prendre le pas en moi, afin que j'accède, la grâce travaillant en moi, au royaume des cieux. Bien, j'arrête là, excusez-moi, ça fait 1h10 que je parle, vous êtes épuisé. Hein. Bah oui. Peut-être s'il y a quelques questions. S'il n'y a pas de questions, c'est très reposant pour tout le monde. Bon, eh bien c'est très bien. Oui, monsieur. Parce que Jean-Baptiste est considéré comme un personnage charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais qui est le dernier de l'Ancien Testament. Et donc, il est le plus grand de l'Ancien Testament, mais le plus petit de ceux qui vivront de la grâce. Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air de vous satisfaire. Non, mais d'ailleurs, l'Église le considère comme un saint. C'est l'un des rares, c'est le seul, à part Jésus et la Vierge Marie, c'est le seul qui est de fait sa naissance et son martyre. Donc, il est considéré par l'Église comme un très grand. Mais lui n'a pu que désigner Jésus, ce qui est déjà extraordinaire, mais il n'a pas vécu de la grâce que Jésus venait apporter. Il en a bénéficié, puisque tout le monde en bénéficie, de Adam jusqu'au dernier. Mais il n'a pas, il n'est pas lui dans l'économie de la grâce du Nouveau Testament. Oui, mais Saint-Pierre aussi a douté, tous les apôtres ont douté. C'est très surprenant d'ailleurs ce passage. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est un doute personnel qu'il exprime? Ou est-ce qu'il veut au contraire donner une occasion supplémentaire à ses disciples d'entendre la parole de Jésus, d'être confortés eux dans l'identification du Christ avec celui qu'on attend? C'est mystérieux ce passage. Oui, madame.
L'amour des ennemis, moi je peux le voir pas dans la douceur, mais dans ce qu'on appelle l'amour coriace, c'est-à-dire veut mieux faire. Les ennemis, je les aimerais quand Dieu leur a pardonné et qu'ils seront plus aimables. Et la même chose pour moi-même, j'ai toujours veut mieux faire. Ces bêtises, je vais essayer de ne pas les recommencer. Donc, je m'aimerais mieux si j'avais pas. C'est la confession. On a toujours.
Je ne suis pas certain d'être d'accord avec vous, madame. Parce que vous avez des gens. Jésus ne nie pas qu'on ait des ennemis. Il dit priez pour vos ennemis. Et je pense qu'il faut distinguer l'amour naturel et l'amour surnaturel. L'amour surnaturel, c'est le seul qu'on puisse appeler la charité. Moi, je n'ai pas la charité. J'ai un amour naturel qui fait, et cet amour naturel, en plus, il est blessé par le péché originel, Ce qui fait que très arbitrairement, il y a des gens que je vais trouver sympathiques et des gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont une tête qui ne me revient pas, ou je vais les trouver antipathiques. Et j'aurai du mal naturellement à surmonter cette espèce d'handicap avec lequel ils partent au départ. Mais Jésus ne me demande pas de les aimer d'un amour naturel, il me demande de les aimer comme lui-même les aime. Ça, c'est la charité. C'est cet amour qu'il y a dans le cœur de Dieu et que Dieu va mettre dans le cœur des hommes, donc dans le mien aussi, si j'ouvre mon cœur à ça, pour me rendre, moi, créature humaine, capable d'aimer comme Dieu aime. Et donc, que celui-là me soit humainement sympathique et celui-là humainement antipathique, si j'ai la charité, de toute façon, j'aimerai tout le monde à ce niveau-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez des gens qui ont beaucoup souffert, par exemple, on a tué des gens de leur famille, il y a eu des massacres épouvantables, et vous avez dans l'histoire des tas d'exemples de gens qui ont absolument pardonné. Ce que, à mon avis, ils n'étaient pas capables de faire s'il n'y avait pas cette grâce surnaturelle. Et ils ont pardonné, comme la Vierge le fait au pied de la croix, quand on est, nous, en train de tuer son Fils unique, et que Jésus lui demande « Maintenant, tu les reçois comme tes enfants », et qu'aussitôt, elle ouvre son cœur pour qu'il n'y ait jamais aucun ressentiment contre nous, mais le désir en permanence que nous recevions tout ce que le Christ veut nous donner, il y a quelque chose de radical chez elle. Alors vous allez me dire, c'est la Vierge Marie. Oui, c'est vrai que c'est la Vierge Marie. Mais je pense, alors peut mieux faire, tant qu'on est sur Terre, on est là pour augmenter la capacité qu'on a à aimer. Ça, c'est vrai. Mais je pense que non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, on peut déjà aimer d'une façon spectaculaire. Je pense à une histoire de quelqu'un qui a perdu toute sa famille et qui a reçu le propre bourreau de ses enfants comme son propre fils.
Ça peut être un grand saint.
Mais voilà, c'est un homme. Oui. Donc il part exactement comme nous. Et ce que le Seigneur fait pour l'un, il est capable de le faire pour les autres. C'est pas le problème, il n'est pas chez Dieu, il est chez nous.
Je reviens une minute sur le baptême qui nous fait enfants aimés de Dieu. Et donc, ça va plutôt dans le sens d'un baptême jeune.
Le plus jeune possible, madame. Ça prouve qu'ils sont libres. On n'a pas demandé, vous n'avez pas demandé, enfin, ceux qui ont des enfants n'ont pas demandé à leurs enfants s'ils voulaient vivre. Ils ont pensé qu'en leur donnant la vie, ils leur faisaient un beau cadeau. En demandant pour eux le baptême le plus tôt possible, ils ont pensé qu'ils faisaient à leur enfant un cadeau encore plus grand qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes, mais qu'ils pouvaient demander à Dieu de leur faire, c'est-à-dire celui de la vie divine. Mais si j'oriente un enfant qui est grand comme ça, par le baptême, en lui disant « Maintenant, tu es marqué à vie, ce qui est vrai sacramentellement, mais tu ne peux plus t'en échapper », je me fais de Dieu une conception qui est abominable et moi je n'ai pas envie de servir ce Dieu-là. Ce n'est pas parce que je vais faire ce cadeau-là à mon petit enfant, le plus tôt possible, que je le prive de sa liberté intégrale vis-à-vis de Dieu. Comment ? Mais madame, il est engagé depuis le premier jour où il a créé. Bien sûr que ça l'engage, mais il ne demande que ça, lui. Hein. Je dirais même que je pense qu'on aide sa liberté en demandant pour lui la grâce du baptême. Parce que les choix qu'il fera plus tard, ils seront plus posés, plus parce qu'il a la grâce du baptême, que s'il est seul avec ses propres forces, qui ne sont pas très grandes, face à la tentation, à une nature qui penche du côté du mal. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a une mauvaise conception de la liberté qui... Voilà. Moi, je ne prends pas parti, vous me dites ce que vous comptez faire, ce que vous ne comptez pas faire, mais je vous respecte, donc je ne vous oriente pas. Et je pense que c'est une mauvaise conception de la liberté. Moi, si je pense que le bien est là et que le mal est là, je favorise votre liberté en vous aidant à choisir le bien. Oui, monsieur.
Le péché originel se transmet à la descendance, donc ce n'est pas le simple fait, un simple désobéissant qui peut se transmettre génétiquement. Qu'est-ce que peut être le péché originel qui se transmet?
Ce qui est transmis, c'est une nature affaiblie. C'est-à-dire que quand Adam et Ève sont sortis, ou nos premiers parents sont sortis des mains de Dieu, toutes leurs facultés étaient tournées, j'allais dire, vers la lumière. Quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont réorienté, c'est la même nature humaine avec les mêmes facultés, mais un peu plus, par exemple, la liberté est un peu plus encline à pencher vers le mal que vers le bien. Ben, génétiquement, non, c'est pas génétiquement, c'est spirituellement. Oui, oui, ça se transmet à la descendance. Mais parfaitement, il y a une injustice. Qu'est-ce qui répare cette injustice? C'est précisément le baptême, où je suis rendu juste par celui qui est innocent, qui ne pouvait pas mourir parce qu'il est Dieu, qui ne devait pas mourir parce qu'il est innocent, et qui accepte de donner sa vie pour tous ceux qui sont coupables. Donc, il y a une injustice. Si je n'ai que la transmission du péché originel, il y a en effet une injustice. Et comme on ne peut pas penser que Dieu permette cette injustice, c'est forcément qu'à un moment, non seulement il l'a réparée, mais pas au sens de la justice humaine avec deux plateaux qui sont équilibrés, mais pour faire pencher ou faire monter l'homme plus haut qu'il n'était avant de descendre. Il faut que j'arrête parce que maintenant, il faut que j'aille confesser. Mais je vous remercie beaucoup.